Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes dans l'Évangile selon Saint-Luc au chapitre 10, que nous avons à peine commencé, donc dans le fichier qui contient les textes des Pères de l'Église pour les chapitres 6 à 10 de Saint-Luc, nous en sommes à la page 34, au milieu de la page. Donc je vous relis le texte que nous sommes en train de commenter à partir des Pères de l'Église. Après cela, le Seigneur désigna encore 72 autres disciples et il les envoya devant lui deux à deux dans toutes les villes et tous les lieux où il devait aller lui-même. Et il leur disait « La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » J'ai déjà expliqué la dernière fois que les disciples représentent les prêtres, alors que les 12 apôtres représentent les évêques. Donc les évêques sont vraiment les princes de l'Église, les représentants directs de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que les évêques ont l'intégralité du sacerdoce. Ils ont le pouvoir de consacrer d'autres prêtres. Alors que le prêtre qui n'a pas l'intégralité du sacerdoce ne peut pas ordonner un autre prêtre. Alors notons donc ce point important, il les envoie deux à deux, jamais seuls. Pourquoi ? Parce que les pères nous expliquent que la solitude nous tente par tous les maux. L'Église n'aime pas les prêtres qui sont seuls, les religieux qui sont seuls. Malheur à celui qui est seul. Je sais bien que à cause de la vicissitude des temps, nous sommes bien souvent obligés d'être seuls. Ça m'est arrivé même quand j'étais prêtre dans la fraternité Saint-Pédis, à deux reprises, d'être tout seul. Et c'est pas évident, c'est pas facile, j'en sais quelque chose, puisqu'aujourd'hui, là, je suis seul, je regrette bien, on faisait comme ça. Et quand on est seul, il faut faire beaucoup plus attention. Pourquoi ? Parce qu'on peut se décourager d'une part. Et puis, il y a parfois des vieux démons qui reviennent. Notamment, faut faire très attention pour ceux qui sont seuls. Bon, la grâce du bon Dieu, j'ai jamais eu ce genre de problème, mais pour ceux, les prêtres qui sont seuls, il faut faire très attention, surtout si dans le passé, ils ont eu des tentations de boisson. Alors là, la boisson, la tentation de boire trop revient très vite pour quelqu'un qui est seul. Certes, il y a toujours eu des ermites, mais l'Église catholique a toujours était prudente, très prudente même à l'égard des ermites. Les ermites devaient très souvent avoir un supérieur et ne pouvaient pas faire que leur tête toute la journée. J'avoue que je fais très attention ici à Padiès où je suis, parce que je suis par le malheur des temps tout seul. Je fais très attention de m'imposer des horaires. Parce que si on est seul et qu'on n'a pas d'horaire, alors là c'est la porte ouverte à toutes les catastrophes. Et donc, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, envoie ses disciples et ses apôtres deux à deux par deux, hein, pas tout seul. Pourquoi ? Parce que quand on est deux, on se surveille mutuellement, on se protège mutuellement, on s'encourage mutuellement, on prie l'un pour l'autre. Et ce chiffre deux, en plus, représente la charité. Charité à l'égard de Dieu et charité à l'égard du prochain. Quand nous sommes dans l'Église ou dans un lieu avec des femmes, disent les pères, que chacun protège la modestie de l'autre. Ainsi, Dieu habitera en vous et vous protégera de vous-même, car la solitude nous tente par tous les maux. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, hein, dit le proverbe. C'est pour cela que dans le monde, pour ceux qui ne sont pas dans la vie religieuse, on dit que ceux qui n'ont pas la vocation religieuse, la vocation sacerdotale, devraient se diriger, quand c'est possible, vers la vie commune. La vie commune, c'est la voie du mariage. Pourquoi? Parce que quand on est à deux, c'est plus facile, encore une fois, de s'aider mutuellement, à condition d'être bien accompagné, comme on dit. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein? Sans aucun doute, nous avons besoin d'une garde sur nous-mêmes. Donc agissons comme si quelqu'un voyait constamment toutes nos actions. Je pense qu'un des moyens les plus efficaces, surnaturellement parlant, pour éviter le péché, c'est réaliser que nous ne sommes jamais en fait seuls. Notre saint ange gardien est à côté de nous, que Dieu du haut du ciel nous voit. Imaginez que je vais faire une bêtise, imaginez quelqu'un qui veut faire un péché, commettre un péché, quel que soit ce péché, et qui ferme sa porte pour être à l'abri des regards pour commettre ce péché. S'il réalisait, cette personne, si elle réalisait que Dieu est dans la pièce qu'il a soigneusement fermé et qu'il voit ce que nous faisons, si cette personne réalisait que son ange gardien est là, à côté de nous, et qu'il voit tout ce qu'on fait, il ne ferait jamais cette action pécamineuse. Il n'oserait pas. Vous voyez? Donc, je crois que c'est important. Malheur à celui qui est seul. Agissons comme si quelqu'un voyait constamment toutes nos actions. Alors, surtout pour ceux qui sont seuls, donc il faut une bonne vie de prière, justement pour se rappeler que nous sommes en présence constante de Dieu. Ça m'avait beaucoup frappé quand j'étais au Mexique, chez les Aztèques, les tribus aztèques. J'ai beaucoup missionné dans le nord du Mexique, pardon, dans le nord aussi, mais surtout dans le sud, pardon, dans le sud du Mexique, dans l'état de Oaxaca. On allait souvent dans des petits villages au sud, pas très loin de la frontière avec, je crois que c'est le Guatemala. Et les Aztèques, les anciennes tribus aztèques, bon, beaucoup étaient maintenant soit paganisés, soit étaient devenus catholiques. Nous allions dans des villages catholiques. Les Aztèques étaient une religion épouvantable qui adorait le dieu soleil. Et comme ils adoraient le dieu soleil, ils faisaient très attention de ne jamais faire de bêtises le jour. Parce que Dieu était dans le ciel, au milieu du ciel, et surveillait, puisqu'on le voyait briller. Donc il nous voyait. Et ils attendaient, quand ils voulaient faire des choses mauvaises, ils attendaient que le soleil soit couché. Et une fois que le soleil était couché, ils disaient, ah ben, le Dieu est couché, donc il ne nous voit plus, maintenant on va faire tout ce qu'on veut. Et du coup, ils attendaient que le soleil soit couché pour faire les 400 coups. Et c'est parfaitement logique. Bien, nous ne sommes pas comme cela. Nous savons, nous catholiques, que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, nous voit, est témoin de tout ce que nous faisons, de toutes nos actions, bonnes et mauvaises. C'est pour cela que le chapitre 10 au verset 1 dit que Dieu envoya devant lui deux à deux ses disciples. Le frère qui est aidé par son frère est comme une ville fortifiée et sa prédication sera plus efficace. Quand vous avez un seul fil de laine, il casse facilement. Si vous avez deux fils de laine qui sont torsadés ensemble, la ficelle devient beaucoup plus solide. Si vous en avez trois, symbole de la Sainte Trinité, si les trois fils de laine sont torsadés ensemble, sont tressés ensemble, à ce moment-là, la corde peut devenir extrêmement solide. J'avais vu des Indiens, encore une fois, en Amérique centrale, quand j'étais là-bas, qui arrivaient à faire avec des lianes, ils tressaient leurs lianes, arrivaient à faire des lianes tellement solides, des cordes tellement solides avec du sisal ou des feuilles de ce genre, ils arrivaient à faire des cordes tellement solides qu'ils étaient parfois capables de soulever, avec un système de poulies, ils arrivaient à soulever avec ces cordes faites à la main, avec une matière végétale, des fibres végétales, ils arrivaient à soulever plusieurs centaines de kilos comme ça, sans que ça casse. Autre verset très important, numéro 2, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson, c'est la moisson des âmes. Et Dieu sait s'il faut prier aujourd'hui pour que nous ayons des vocations. Tout en reconnaissant qu'il y a un énorme problème. J'avoue que je vous en ai déjà parlé une fois ou deux, je pense, dans ce cours. je ne sais pas où envoyer des vocations. Je ne vois pas. Je ne sais pas du tout. Si j'avais un jeune homme qui pensait à la vocation, pour les jeunes filles, il y a encore quelques couvents qui tiennent encore la route. Je pense notamment au couvent de Sernerpol. Couvent dirigé par la mère Marie-Monique, dans l'Isère, pas très loin de Grenoble, avec une école pour jeunes filles. Et ce couvent est, à mon avis, un couvent sérieux. Je n'hésiterais pas du tout personnellement à y envoyer une vocation féminine. Mais pour les hommes, je ne sais vraiment pas où je pourrais les envoyer. Je ne vois pas en conscience devant Dieu où et comment former des jeunes prêtres actuellement. Je suis peut-être trop négatif, je ne sais pas, mais dans quel séminaire envoyer des jeunes vocations sacerdotales aujourd'hui, je ne sais pas. Il n'est pas question, bien sûr, de les envoyer dans la fraternité Saint-Pilice, vu leur attachement à la robe de Bergoglio, à l'église de Vatican II. Ce sont des prêtres unicum en union avec un hérétique qui détruit l'église. Je ne vois pas très bien comment on peut les envoyer aussi dans des instituts qui sont, à mon avis, complètement schismatiques. Parce qu'ils reconnaissent le pape Pie XII, mais dans la pratique, ils font comme si le pape Pie XII n'existait pas. Et ils suivent Pie XII quand ça les arrange. Par exemple, quand Pie XII a changé les lois du jeûne et dit qu'il n'y a plus l'obligation de garder un jeûne intégral, y compris avec clos, depuis minuit, mais qu'on peut maintenant, que l'eau ne rompt plus le jeûne et qu'on peut manger 3 heures avant le début de la messe pour un prêtre et jusqu'à 3 heures avant le début de la messe pour un prêtre et 3 heures avant le temps de la communion pour les fidèles et qu'on peut prendre un café par exemple encore jusqu'à 1 heure avant le début de la messe pour les prêtres, 1 heure avant la communion pour les fidèles. Alors là, ils suivent parce que ça les arrange parce qu'ils ont souvent des messes dans la soirée, surtout le dimanche. Mais quand Pie XII change la fête de Saint-Philippe et Saint-Jacques et qu'il met la fête de Saint-Joseph artisan au 1er mai, ils ne veulent plus suivre. Hein, quand Pie XII institue la fête du cœur immaculé de Marie, l'octave au 22 août, l'octave de la fête de l'Assomption, ils ne veulent pas suivre souvent. Ou quand Pie XII modifie les horaires de la semaine sainte, change certaines fonctions liturgiques de la semaine sainte, on a l'obligation de suivre, tout simplement. Parce que le pape légitime a autorité pour faire des modifications liturgiques pour toute l'Église universelle. Or, le pape, dans ce domaine, jouit de l'infaillibilité pontificale. Donc, lorsque le pape, en tant que pape, introduit une modification liturgique universelle pour toute l'Église, il est infaillible. Alors, si on reconnaît Pie XII comme pape, on le reconnaît comme pape infaillible dans son domaine, dire dans le domaine de la foi et des mœurs, quand il parle comme pape, avec l'intention d'obliger toute l'Église, dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire. Dans les deux cas, le pape est infaillible, et donc on doit infailliblement suivre ces modifications qui ont été instituées. Sinon, on tombe dans le schisme. Mais moi, je ne peux pas envoyer en conscience devant Dieu un séminariste dans un séminaire schismatique. Non, je ne sais pas. Je ne vois pas. Le bon Dieu me donnera les grâces de lumière, de discernement dont j'ai besoin. Si un jour le cas se présente, j'ai quelques cas de gens qui y pensent, mais il n'y a rien de sérieux pour le moment. Et je ne sais vraiment pas quoi faire. Donc prions. Prions le bon Dieu, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson et nous expliquer, nous indiquer dans quel domaine il faut et dans quelle maison religieuse il faut envoyer ces ouvriers pour qu'ils puissent être formés. Il faut 6 ans pour former un prêtre. Monseigneur Williamson me disait qu'il pensait, et je me demande s'il n'a pas raison. Il me dit on ne peut plus former des prêtres aujourd'hui de la manière traditionnelle, c'est plus possible, à cause du manque de maturité des jeunes. On ne peut plus les envoyer dans un séminaire normal, parce que à cause de leur manque de maturité, et aussi à cause de la diminution dramatique du niveau intellectuel aussi. Ben, je ne sais pas. Et lui pensait que on ne pouvait plus faire des séminaires comme avant, que les jeunes n'étaient plus capables d'être formés dans les séminaires traditionnels. Il a peut-être raison. Je constate qu'avant, je laisse ouvert, encore une fois, là, ce sont des opinions hein, que je vous donne. Avant le Concile de Trente, c'est le Concile de Trente qui a établi les séminaires. Donc avant le Concile de Trente, c'était les curés qui formaient eux-mêmes les vocations. Ils connaissaient très bien leurs fidèles. En général, les curés étaient curés à vie, inamovibles. Ils restaient dans la même cure, dans les mêmes villages pendant 30 ou 40 ans, ils connaissaient tout le monde, ils avaient baptisé tout le monde, ils avaient marié tout le monde, ils connaissaient tout le monde, les défauts, les qualités de toutes les familles, la stabilité des familles. Mais donc, ils pouvaient très bien deviner. J'ai connu des vieux curés comme ça, ils pouvaient très bien deviner quand deux jeunes voulaient se marier du même village, ils pouvaient immédiatement dire si ça allait tenir ou ça tenait pas. J'ai connu un vieux curé comme ça, qui lorsque deux jeunes voulaient se marier du même village, qui les connaissait très bien depuis, parce qu'il connaissait les parents, il connaissait la famille, il avait baptisé les deux enfants, le jeune homme et la jeune femme, et qui savait que ça tiendrait pas, il faisait net de les marier. Il faisait net de les marier, en général, les gens se mettaient, ces deux jeunes se mettaient furieux, se mettaient en concubinage, ça durait 2, 3 ans, ils se séparaient. Mais ils étaient encore libres de se marier à ce moment-là. Ils venaient remercier le curé d'avoir eu la bonne idée de ne pas les marier religieusement. Vous voyez? Et les vieux curés comme ça, lorsqu'il y avait un jeune qui pensait à la vocation, il commençait à le former lui-même. Mais ça demande une compétence, du temps, une disponibilité, un espace aussi. Et c'est ce que faisait, c'est comme ça que s'est formé le Saint-Curé d'Ars. Donc il y avait ce vieux curé qui a commencé à le former au moment de la Révolution, juste après la Révolution, et a commencé à laisser prêtres dans leur paroisse, dans leur cure, commencer à il y a en général beaucoup de prêtres, il y avait plusieurs vicaires souvent, au moins un vicaire, et le curé qui avait un peu plus de temps, eh bien, il commençait à former un peu ces jeunes, à leur apprendre les rudiments du latin, à revoir à fond leur catéchisme, commencer à leur faire étudier la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, leur faire étudier un peu la philosophie, etc. Et lorsqu'il commençait vraiment à être formé au bout de plusieurs années, bon, il allait les présenter à l'évêque, lors d'un passage de l'évêque pour la confirmation, par exemple. Ces jeunes étaient présentés à l'évêque et éventuellement passaient des examens dans le séminaire diocésain et puis recevaient la tonsure, puis les ordres mineurs, portiers, lecteurs, acolytes, exorcistes, et puis finalement les ordres majeurs, sous-diaconat et prêtrise. Donc il faut vraiment prier le bon Dieu. À la fois d'envoyer des ouvriers, mais à la fois de donner des moyens pour que nous puissions former nos ouvriers. Je m'excuse de parler de ces choses-là, mais c'est un problème qui me turlupine, vraiment. Je vois pas clair là-dessus. J'espère que d'autres personnes autour de moi auront plus de lumière que moi pour m'indiquer ce qu'il faut faire. Alors, continuons ces explications des pères. Le frère qui est aidé par son frère, donc quand ils sont deux, est comme une ville fortifiée, sa prédication sera plus efficace. Souvent, avant, quand les dominicains envoyaient des dominicains, des prêtres dominicains, des moines en mission quelque part, ils n'étaient jamais seuls. Soit il y avait deux prêtres dominicains, puis un qui prêchait et l'autre pendant ce temps qui confessait. Ou au moins un prêtre et puis un frère convert qui était là, mais qui était à côté, qui était là, et ces deux religieux s'entraidaient et s'aidaient. Donc figurativement, le Seigneur envoya ses disciples deux par deux, car le précepte de la charité est double, je viens d'expliquer, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et la charité ne peut exister sans au moins deux personnes. Donc celui qui n'a pas l'amour du prochain ne doit pas se donner à l'office de la prédication. Et aussi, rappelons-nous, j'insiste beaucoup quand je parle avec des jeunes prêtres, rappelons-nous la nécessité de parler quand on prêche, surtout le prêtre qui prêche le dimanche ou qui donne une mission, qui donne une retraite ou quelque chose de ce genre. Il doit parler toujours de telle façon que la personne la plus simple dans l'assistance puisse comprendre. Et donc, surtout le dimanche, où nous avons parfois des enfants qui assistent à la messe. Bon, bien sûr, je ne parle pas des tout petits enfants qui sont qui ont encore 2, 3 ans. Ce n'est pas des enfants comme ça dont je parle, mais des enfants qui commencent déjà un petit peu à comprendre les choses, qu'au moins ils puissent comprendre certaines parties du sermon. Quand il y a des enfants, moi j'avoue que j'essaie de faire l'effort, je ne le fais pas toujours, mais j'essaie de le faire. Quand il y a des enfants, par exemple, de 7-8 ans, qui sont à la chapelle, Je vais essayer, je vais m'obliger à donner par exemple une histoire. Une histoire pendant le sermon qui s'adresse plus aux enfants. Les enfants, au moins, ils ont quelque chose à se mettre sous la dent. Vous voyez? J'ai beaucoup souffert de ça, des prêtres qui étaient d'excellents prêtres, qui avaient une vie spirituelle remarquable, une vie intellectuelle extraordinaire, qui étaient 10 fois plus intelligents que moi, et qui prêchaient le dimanche. J'en ai connu, je pense en particulier à un qui prêchait avec le style de Bossuet, donc il s'inspirait de Bossuet, il prêchait comme Bossuet, il ne se rendait absolument pas compte que le style de français utilisé par Bossuet est pratiquement aujourd'hui incompréhensible par la plupart des gens qui n'ont pas fait d'études. Vous voyez, donc il faut faire attention, je crois, dans notre prédication, nous prêtre, de nous arranger pour ne pas prêcher avec le style fleuri du 18e, du grand siècle, même s'il y a eu des très bons prédicateurs à l'époque, on n'est plus au temps de Louis XIV et on n'est plus le père Bourdaloue qui prêchait devant la cour de Louis XIV. Hein. Il faut prêcher de telle façon que nos fidèles puissent comprendre. Combien de fois j'étais frappé par ça, surtout quand j'étais beaucoup plus jeune, avant même de rentrer au séminaire. On entendait parfois certains sermons le dimanche, ou qui n'avaient aucun intérêt, je dirais, qui étaient nuls, minables, manifestement, ils n'avaient pas été préparés, ces sermons, ou au contraire, beaucoup trop compliqués. Et quand après on parlait un peu avec les jeunes, surtout les jeunes de mon âge, qui étaient là, qu'on discutait un peu, bon, qu'est-ce qu'il a dit le curé pendant le sermon? Bon. Beaucoup de jeunes étaient incapables de dire même de quoi il avait parlé, parce que ça ne les intéressait pas. Et j'étais surpris plusieurs fois de voir à quel point, même des jeunes, si on se met à leur niveau, bien des jeunes vont écouter. Je vais vous donner un exemple tout simple. Je risque de parler de moi, mais c'est pour expliquer le point qui me semble important ici, puisque notre Seigneur nous parle d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il y a quelques jours, j'ai eu la tristesse, en même temps l'honneur d'aller enterrer un de mes anciens, non pas un ancien fidèle, mais quelqu'un qui avait fait une retraite avec moi en juin 2020. Un monsieur de 59 ans qui a fait une retraite avec moi, il a fait une bonne confession générale, Deo gratias, et puis malheureusement, mais il est mort d'une crise cardiaque très rapide au travail, et il est mort le soir même. Donc sa femme, son épouse m'a téléphoné, je suis allé l'enterrer dans l'Ariège. Il y avait une trentaine de personnes qui étaient là, des braves gens, surtout des jeunes, mais qui manifestement avaient complètement oublié même les béabas de la foi catholique. La plupart étaient catholiques, pas tous, pas tous. La plupart étaient catholiques, mais manifestement ne pratiquaient plus depuis des décennies et des décennies. J'ai été frappé de voir que si on se mettait à leur niveau, l'attention qu'ils ont portée au sermon. Et quand j'enterre des gens, je commence toujours de la même façon. Pour avoir présenté mes condoléances à la famille, bien sûr, je parle toujours de la même façon. Je dis, voyez, et je touche le cercueil avec ma main. Je dis, voyez, messieurs, mesdames, messieurs, bien chers frères, ici, il y a une boîte qu'on appelle un cercueil, dans lequel gît le corps de la personne que nous pleurons aujourd'hui. Eh bien, mettez-vous une chose dans la tête. Vous et moi, un jour, nous serons dans ce cercueil. Alors, je ne veux pas vous parler pour les gens qui sont morts, parce que les gens qui sont morts, on peut prier pour eux, mais on ne peut plus leur parler parce qu'ils ne peuvent plus entendre. Par contre, vous, vous entendez. Alors, je vais vous parler de ce qu'il faut faire pour être le jour de notre mort au bon endroit et au bon moment, lorsque nous serons dans ce cercueil. Eh bien, j'ai vu à ce moment-là les bouches s'ouvrir, ils oubliaient même de la fermer, et puis. Ils ne parlaient pas, mais ils avaient été comme des poissons hors de l'eau. Ils écoutaient avec une attention. J'ai pu expliquer, en utilisant les mots, j'espère qu'il fallait, avec des mots charitables, j'espère. J'ai parlé évidemment des grandes fers dernières. Et je finis toujours mon sermon de la même façon. Disant, mes bien chers amis, mes bien chers frères, nous allons, après la messe, il y aura l'absoute, puis nous irons au cimetière pour bénir la tombe et terminer les dernières prières prévues par l'Église catholique pour ces temps-là. Et au cimetière, une fois que tout sera terminé, nous dirons une dizaine de chapelets pour le premier d'entre nous qui va mourir. Alors priez-la bien, cette dizaine de chapelets, parce que vous pourriez très bien être en train de prier pour vous. Et je l'ai fait. Une fois que tout a été terminé, on a dit une dizaine de chapelets. Bon, c'était un peu triste, parce qu'il n'y avait qu'une seule personne, la veuve, de la personne qui était morte. La veuve a pu répondre, les autres, pratiquement personne ne répondait. Mais la maman m'a dit, après coup, « Monsieur l'abbé, vous savez, ça vous a fait réfléchir, votre sermon. » Et j'étais aussi très surpris, je ne sais pas, je vais peut-être déjà raconter tout ça, je m'excuse si parfois je me répète dans certains cours, parce que je ne sais plus très bien où j'ai dit certaines choses, mais aussi une chose qui m'a beaucoup, beaucoup frappé. Après la cérémonie, j'allais retourner vers ma voiture, et une des personnes qui était là, une jeune femme, qui avait 25 ans, 30 ans, même pas, 25 ans à peu près, qui est venue me voir, et qui m'a dit, « Monsieur l'abbé, moi je ne suis pas baptisé, je suis une païenne. Est-ce que j'ai le droit de prier Dieu si je suis une païenne et que je ne suis pas baptisé ?» Je lui dis, « Mais bien sûr, Dieu a créé tous les hommes, y compris les païens. Bien sûr que vous avez le droit de le prier. » Elle m'a dit, « Mais je ne connais aucune prière, comment je fais pour prier ?» Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit, « Mais qu'est-ce qu'on apprend aux enfants ? Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants ? Quand on les éduque, aux petits, on leur dit, quand vous rencontrez quelqu'un, il faut dire « Bonjour, s'il vous plaît, merci, pardon si on a fait une bêtise. » Et quand on part, on dit « Au revoir et merci. » Mais faites pareil avec le bon Dieu. Le bon Dieu, il s'occupe de vous, il vous voit, il est au ciel, mais il nous voit sur la terre, puisqu'il est le créateur et le rédempteur de tous les hommes, c'est lui qui vous a créé. Dites-lui bonjour le matin. Suppliez-le de lui donner les grâces dont vous avez besoin. Demandez-lui la lumière pour le connaître. Et demandez-lui pardon si vous l'avez offensé. Et souhaitez-lui une bonne nuit le soir avant de vous coucher. Je ne sais pas si elle l'a fait. Mais cela montre qu'il y a encore des moyens de semer la graine dans le terrain, à condition de prêcher au niveau des fidèles. Imaginez ce qui se serait passé si dans ce milieu-là, mais c'était manifestement des gens tout simples, c'était des gens manifestement d'un milieu ouvrier, des gens tout simples. Imaginez que j'ai sorti un grand sermon de Bossuet ou de Bourdalou sur les fins dernières, mais ils n'auraient rien compris. Vous voyez? D'où l'importance, mes bien chers frères, de nous préparer. Hein? Donc celui qui n'a pas l'amour du prochain ne doit pas se donner à l'office de la prédication. Donc quand on parle aux gens, il faut parler de telle façon que la personne la plus simple dans l'assistance puisse comprendre. Le fondateur des rédemptoristes, saint Alphonse de Ligorie, insistait beaucoup avec ses moines sur ce point-là. Et quand il avait des jeunes prêtres qui prêchaient, je vous l'ai peut-être déjà dit aussi, encore une fois, je m'excuse de me répéter, il écoutait très soigneusement les sermons de ses prêtres. Et quand il y en a un qui commençait à se lancer dans des prédications du style fleuri de son temps, du grand siècle, il montait en chair, il faisait descendre le jeune prêtre qui commençait à parler avec un style en poulet, le faisait descendre et finissait le sermon à sa place. On a eu au séminaire un exemple extraordinaire de sermon avec Monseigneur Lefebvre. Là, simplicité des sermons de Monseigneur Lefebvre. Pour ceux qui ne connaissent pas ces sermons, je vous conseille beaucoup d'écouter ces grands sermons. C'est extraordinaire. Monseigneur Lefebvre, j'ai entendu Monseigneur Lefebvre faire un sermon sur la Sainte Trinité, les relations dans la Sainte Trinité entre les trois personnes de la Sainte Trinité, en utilisant des mots qu'un enfant de 10 ans aurait parfaitement compris. Il y avait un autre qui était aussi très bon, à mon avis, en prédication, c'était Monseigneur Williamson. Il avait aussi des moyens d'expliquer avec des exemples tout simples, des histoires qu'il inventait pour mettre les gens un peu à l'aise et en même temps leur faire comprendre le point qu'il expliquait. C'est extraordinaire. Et malheureusement, j'en suis pas fier d'ailleurs, je reconnais qu'au séminaire, beaucoup des prêtres qui étaient pleins de bonne volonté, qui nous formaient là-bas de mon temps, bon, étaient des piètres prédicateurs parce qu'ils ne savaient pas se mettre au niveau des gens à faire des sermons qui intéressaient les gens. Vous voyez? Donc, mystiquement, le Christ lui-même s'occupe de ses prédicateurs, car leurs paroles persuadent les hommes de la vérité et rendent leur cœur prêt à devenir l'habitation du Christ. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le Christ qui parle en moi, dit saint Paul. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, disait-il. Donc, la moisson est grande, ça c'est le monde entier. Le monde entier, c'est la moisson, mais les ouvriers sont peu nombreux. Pensez un peu, prenez la France par exemple. Il y a combien de prêtres en France? Qui ont à peu près compris ce qui se passe à Rome, qui sont vraiment prêtres, qui ont été ordonnés par des véritables évêques, qui sont véritablement prêtres, et qui ont compris que Bergoglio est un imposteur, et qui refusent donc de célébrer la Sainte Messe, le sacrifice de la Messe, en union avec cet hérétique. Il y en a combien dans toute la France? Mais c'est ahurissant quand on y pense, et à se taper la tête contre les murs, on est quoi, une vingtaine? Trentaine, peut-être même pas. Vous voyez, donc il faut vraiment demander avec humilité au bon Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson et en même temps de supplier le bon Dieu de nous donner les grâces d'état dont nous avons besoin pour que nous sachions comment former ces vocations qui se présenteraient. Donc le travail du prêtre, c'est de préparer les cœurs à devenir l'habitation du Christ. J'aime beaucoup cette phrase des pères de l'Église. Donc, le prédicateur doit persuader les hommes de la vérité divine et rendre leur cœur prêt à devenir l'habitation du Christ. Et ceci est valable non seulement pour les prédicateurs religieux, les sacerdotaux, les prêtres, ceci est valable pour les parents. Dans bien des cas, mes bien chers frères, c'est vous, parents, qui allez devoir faire l'enseignement religieux à vos enfants. Dans bien des cas, hélas, trop souvent, c'est vous qui devez faire le catéchisme. Mais vous devez faire le catéchisme de telle façon que vos enfants aiment le catéchisme. Ça sert à absolument à pas grand-chose d'apprendre à vos enfants le catéchisme si vous avez été incapable de le leur faire aimer. C'est pareil pour la messe. C'est très bien de dire aux enfants qu'il faut aller à la messe tous les dimanches et qu'il y a le troisième commandement de Dieu, de sanctifier le jour du Seigneur. Très bien. Et il faut les pousser à aller à la messe tous les dimanches, quand il y a une messe, quand il y a une messe, une messe, une messe, une véritable messe le dimanche. Mais ça ne suffit pas de pousser nos enfants à aller à la messe le dimanche. Ça ne suffit pas d'expliquer à nos enfants qu'il faut sanctifier le jour du Seigneur. Il faut que nos enfants aiment la messe. Il faut que vous donniez un catéchisme de telle façon que vos enfants en redemandent à la fin du cours. Qu'ils aient envie de faire du catéchisme. Moi, je me rappelle les catéchismes dans la paroisse dans laquelle j'étais quand j'avais 15-16 ans. Quelle catastrophe, mon Dieu. Je ne suis pas fier, très fier, mais je trouvais aucun intérêt au catéchisme de la paroisse. Et c'était autour des années 60, 60, 65. Hein? Les années 65, donc on était encore avant Vatican II, il y avait encore la messe traditionnelle, il y avait encore les prêtres en soutane. Je me rappelle un vieux curé, l'endroit où j'habitais, je ne vais pas donner le nom, ni son, il est mort depuis longtemps, le pauvre, mais ces catéchismes étaient sans aucun intérêt, on n'avait pas envie d'aimer plus le bon Dieu à la fin du catéchisme. Quand le catéchisme a correctement été donné, il faudrait qu'à la fin du catéchisme, on ait plus d'amour pour le bon Dieu qu'au début du catéchisme. Et c'est pareil pour moi, c'est valable pour moi aussi. Il faudrait que je prêche de telle façon, que je célèbre la messe de telle façon, qu'à la fin de la messe, parce que les gens quittent la chapelle, le petit oratoire dans lequel je célèbre la messe le dimanche pour quelques personnes, il faudrait que quand ils quittent la chapelle, l'oratoire, ils aient plus d'amour du bon Dieu que quand ils étaient rentrés, ils y sont rentrés. Il faudrait que les gens je sais pas, 150, 200 familles qui se connectent sur Internet pour écouter la messe qui est sur le site YouTube, maintenant la messe du dimanche, tous les dimanches à 10h, à partir d'une heure de l'après-midi, tous les dimanches, elle est sur YouTube, en version MP4, c'est-à-dire avec une vidéo de la messe, avec toute la messe et le sermon aussi. Avec une bonne image, une image bien claire, et puis une piste vidéo, une piste audio aussi très claire, de grâce à mon bon ami d'Andorre qui passe bien du temps à tout préparer, à faire tout ça. Eh bien, j'espère que les gens qui se connectent pendant 1h10, 1h15, devant leur écran, là où ils sont, parce que beaucoup n'ont pas la messe, je le sais, ils me l'ont dit, beaucoup sont dans des endroits où il n'y a pas la messe. J'espère de tout mon cœur que en quittant leur écran, après avoir suivi la messe sur l'écran, suivi la messe aussi à l'aide de leur missel, qu'ils aient en quittant cette messe, même une messe virtuelle, qu'ils aient un peu plus d'amour pour le bon Dieu qu'ils n'en avaient au moment où ils ont branché la vidéo en question. Et je me pose des questions, j'espère, mais je suis pas sûr du tout, j'espère que malheureusement il n'y ait pas des gens qui se disent non, j'ai rien ressenti. Bon, je sais bien que la foi n'a rien à voir avec le sentiment, mais il faut quand même se rappeler, faire attention à toutes ces choses-là, mes bien chers frères. Et se rappeler à quel point il n'est pas important que nous prêtres, nous préparions les cœurs de nos fidèles à devenir l'habitation du Christ. Et que vous, parents, vous prépariez vos enfants, le cœur de vos enfants, pour que notre Seigneur Jésus-Christ aime à venir y habiter. C'est tout le temps de l'avant. Hein. J'enregistre ce sermon pour le 16. C'est ça, le 16 décembre, donc on est en pleine période de l'Avent. Et l'Avent, c'est quoi l'Avent ? L'Avent, c'est un temps de préparation. On est sur la route de la crèche. On cherche les panneaux d'indication qui indiquent la crèche de Bethléem. Il y a encore pas mal de kilomètres, on n'est pas encore là, parce qu'on n'y sera que le 24 décembre au soir. C'est le moment où notre Seigneur Jésus-Christ va descendre pour apparaître du Saint très pur de notre Sainte Vierge Marie à Bethléem. On se prépare. Il ne s'agit pas de se mettre sur le chemin qui mène à la crèche de Bethléem en regardant les mouches voler et en regardant les papillons à droite et à gauche. Il faut se préparer. On se prépare par une bonne confession générale, éventuellement. On se prépare par un peu plus de vie de prière. Donc il est important, pendant le temps de l'Avent, de sérieusement se préparer, envisager une bonne confession. Peut-être de prier un peu plus, de dire son chapelet tous les jours. Moi, je remercie le bon Dieu de m'avoir permis de faire une petite retraite personnelle de 5 jours. Je suis en train d'ailleurs de la faire, je suis en plein dedans là, et j'enregistre ce cours en milieu de ma retraite, parce que ça ne me distrait pas de la retraite, c'est tout à fait dans le sujet de la retraite, mais il est très important, mes bien chers frères, que nous utilisions ce temps de l'Avent pour nous préparer à recevoir à ce que nos cœurs deviennent l'habitation du Christ. Comment voulez-vous que le bon Dieu puisse venir dans une âme qui est toute souillée par le péché ? Comment voulez-vous que le bon Dieu puisse rentrer dans une maison qui est peut-être encore à peu près propre, si les alentours sont tellement dégoûtants, sont tellement envahis par les ronces, que le bon Dieu ne peut même pas arriver à la porte, parce qu'il y a 3 mètres de buissons de ronces devant la porte ? Il faut que les choses soient propres. Alors, un des grands moyens, c'est de faire rentrer notre Sainte Vierge Marie avant de faire rentrer notre Seigneur. Demandez à notre Sainte Vierge Marie, c'était sa fête, on est en plein actuellement dans l'octave de l'Immaculée Conception, donc jusqu'à mardi prochain, le 15, nous sommes dans l'octave de l'Immaculée Conception. Eh bien, demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à préparer les voies du Seigneur. Vous allez me dire, mais je suis un pauvre gars. Ben, le bon Dieu, il est venu pour les pauvres gars. Rappelez-vous les textes d'Isaïe. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur. C'est Isaïe qui parle, le prophète Isaïe. Il annonce déjà ce qui va se passer au moment de l'arrivée de notre Seigneur. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. Bienheureux est celui pour qui je ne serai pas une occasion de péché, de scandale. Mais nous sommes des aveugles. Qu'est-ce qu'il faut faire si on est aveugle ? Il faut se mettre sur la route quand même. On prend son bâton, on se fait guider par quelqu'un parce qu'on ne voit rien, et on prend le chemin qui mène à la grotte de Bethléem. Les aveugles, c'est ceux qui sont en pleine cécité spirituelle. Ceux qui ont mal fou à prier parce qu'ils n'arrivent pas à ouvrir les yeux de leurs âmes. Et puis il y a les boiteux. Les boiteux, c'est qui ? Je vais expliquer tout ça au sermon ce dimanche-là. Ce dimanche, demain. Demain, c'est le sujet du sermon. Les boiteux, un boiteux, c'est quelqu'un qui a une jambe plus courte que l'autre. Il n'arrive pas à marcher parce qu'il a une jambe plus courte. Les boiteux représentent ceux qui n'arrivent pas à vraiment suivre notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ont un fil à la patte. Un fil à la patte qui les empêche de marcher normalement parce qu'en général, ils gardent une occasion prochaine volontaire de pécher. Alors, ils n'arrivent pas à se mettre au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ demande aux boiteux de se mettre sur le chemin qui mène au calvaire, qui mène au, pardon, à la crèche. Et sur ce chemin, eh bien, la Sainte Vierge va nous aider à couper le fil pour que nous soyons libérés. Puis il y a les lépreux. La lèpre, c'est quoi? C'est le symbole du péché grave. Les lépreux, ils peuvent aussi se mettre en marche. Donc un lépreux peut se mettre en marche pour aller à la grotte de Bethléem et le bon Dieu va accepter à la grotte de Bethléem les lépreux. Mais oui, bien sûr, puisqu'il est venu pour les malades. Il est venu pour les malades. Et puis il y a les sourds. Les sourds vont être guéris. Je peux me mettre à la recherche de notre Seigneur Jésus si je suis sourd. Oui, mais commencer à apprendre à ouvrir les yeux. Il faut s'ouvrir les yeux. S'enlever le cérumen spirituel qui est dans nos conduits auditifs, qui nous empêche d'entendre la grâce du bon Dieu qui veut travailler dans nos âmes. Et puis il y a les morts qui ressuscitent. Les morts, celui qui est dans le vice complet. Mort spirituelle. Eh bien, il va ressusciter à la croche, à la crèche. Et les pauvres. Les pauvres qui ont tout perdu, qui sont dans le désespoir le plus complet. Eux aussi sont invités à la crèche. Eux aussi sont invités à la crèche. Mais attention, il y a des conditions. Ce que je vais expliquer demain, je reprends un peu le sermon de demain là. C'est un peu ce que je vais expliquer demain. Il faut aller à la crèche, mais pour entrer dans la grotte, il y a deux choses. Hein. Il faut d'abord se baisser. Se baisser. Parce que l'entrée de la grotte est basse. Donc il faut s'humilier avant de rentrer devant Dieu. Et puis, il faut accepter de rentrer. Il y a beaucoup de gens qui vont arriver à la grotte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien pauvre, c'est bien misérable. Puis ça sent mauvais. Et puis qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des toiles d'araignée, il y a de la paille pourrie, il y a des crottes des déjections d'animaux partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, qu'est-ce que c'est que ce gamin, cet enfant-là, qui est enveloppé de l'ange tout simple, tout misérable, et qui est couché dans une mangeoire pour animaux? Moi, je ne vais pas là-dedans. J'attendais un grand roi qui devait naître dans un grand hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles. Eh bien non. Donc il faut accepter de s'abaisser, il faut accepter de rentrer, même si ça sent peut-être pas très bon à cause du fait que cette grotte était utilisée par les animaux. On n'est pas en mauvais temps. Donc il faut, mes bien chers frères, préparer la voie devant notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les textes liturgiques de l'Avent parlent de ça. Rendez droit le chemin du Seigneur. C'est le prophète Isaïe qui parle. Au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est lui qui doit venir après moi, dit Saint Jean-Baptiste, qui a été placé au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de nouer le cordon de sa sandale. Préparons-nous, mes bien chers frères. Préparons-nous. Et méditons cette parole extraordinaire de notre Seigneur. La moisson est grande. Les ouvriers sont peu nombreux. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Chacun a une moisson. Attention, on a tous un terrain privé. Hein. Il n'y a pas que des grands, grands champs de milliers d'hectares. Il y a aussi des tout petits champs dans lesquels il y a quelques graines de blé qui sont plantées. Eh bien, le bon Dieu veut aussi envoyer que nous soyons ouvriers dans ce petit terrain. Le petit terrain, c'est quoi? Ce petit terrain tout petit avec quelques graines de blé qui poussent, c'est notre âme. Il faut commencer par s'occuper de notre âme. Avant d'aller s'occuper des moissons, des eaux, des grands champs, commençons par nous occuper du petit champ que le bon Dieu nous a confié. Et bien vérifier qu'il n'y a pas d'ivraie qui pousse au milieu des grains de blé. Bien vérifier qu'il n'y a pas des animaux nuisibles qui sont là, qui vont tout détruire, qu'il n'y a pas des pierres qui empêchent le bon grain de pousser. Rappelez-vous le grain qui tombe sur les pierres du chemin, sur le côté du chemin, et qui sont pris dans les ronces et qui ne peut pas donner du fruit. Parce qu'il n'y a pas assez d'humidité et d'espace pour que la graine puisse germer et se développer, donner une fleur et un fruit. Eh bien, c'est pareil pour nous, mes bien chers frères. Il faut méditer ce passage-là. Je répète cette phrase magnifique des Pères. Le Christ lui-même s'occupe de nos âmes, car les paroles persuadent les hommes de la vérité. Les paroles des prédicateurs persuadent les hommes de la vérité et rendent leur cœur prêt à devenir l'habitation du Christ. Et si je constate que mon âme actuellement n'est pas encore prête à devenir l'habitation du Christ, il ne faut pas me décourager parce qu'il reste 12 jours avant Noël. Noël, c'est le 25, 24 au soir. Et j'enregistre ce cours le 12 décembre. 12 décembre. Alors notre Seigneur Jésus-Christ va continuer d'avertir ses apôtres. C'est le verset 3 du chapitre 10. Allez, après leur avoir dit, la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Notre Seigneur va rajouter une phrase capitale. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Des agneaux au milieu des loups. On est entouré d'ennemis. Regardez autour de vous. Et ça devient de pire en pire. Et les pères expliquent, les loups sont la figure des hérétiques. On est en bas de la page 34 sur le polycopier. Les loups sont la figure des hérétiques qui tendent des pièges autour des bergeries du Christ. Donc autour des âmes des fidèles. On les entend hurler la nuit autour des cabanes des bergers. Car il est toujours nuit pour ces ennemis perfides qui répandent sur la lumière de Jésus-Christ les nuages de leur fausse interprétation. Le démon ne craint rien tant que la lumière. Et donc dès que la lumière divine lui, il s'en va en courant. Donc il faut faire attention à se protéger des maladies spirituelles, des maladies doctrinales qu'on appelle les hérésies. L'hérésie est partout aujourd'hui. Les gens autour de nous qui se prétendent encore catholiques, mais qui se hérissent par exemple parce que le prêtre dit hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Et ils viennent vers nous, pour qui vous prenez-vous, mon père, pour dire des choses pareilles? Pour qui je me prends? Pour un prêtre catholique. Ah, mais on n'a plus le droit de dire ça aujourd'hui, le Vatican II est passé. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas passé, lui. Il est toujours là. Et notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit expressément. Celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Et notre Seigneur Jésus-Christ, 63 fois dans les 4 évangiles, parle justement du feu éternel qui ne s'éteint point, la gêne du feu, l'enfer. Donc qu'est-ce que fait le démon? Il attend. Il tourne autour de nous. Nous dit Saint-Pierre comme un lion dévorant, un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Les loups, épient, disent les pères, l'absence des pasteurs, parce qu'ils n'oseraient en leur présence se jeter sur les brebis du Christ. Donc ils ont aussi dans l'esprit une certaine raideur et une dureté qui ne leur permettent pas de revenir de leurs erreurs. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande d'être prudents comme des serpents, mais doux comme des colombes. Il faut les deux. Bien sûr, il faut être prudent pour ne pas nous faire contaminés par les hérétiques et leurs hérésies, mais il faut en même temps cette douceur extraordinaire qu'avait notre Seigneur Jésus-Christ. Il était doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, et je vous referai. On le dit dans les litanies de Sacré-Cœur, cœur sacré de Jésus, broyé à cause de mes péchés, ayez pitié de moi. Donc il faut avoir cette douceur, qu'il est triste parfois de voir dans nos chapelles, parfois, des gens qui n'ont pas cet esprit de douceur, cet esprit de mansuétude. Combien de fois j'ai vu dans les chapelles de gens très bien, hein, de chapelles de gens très très fermes, plus fermes que moi tu meurs, comme on dit vulgairement, des durs de durs, des célébacantistes purs et durs, qui excommuniaient tous ceux qui ne pensaient pas comme eux. Puis voilà, quelqu'un vient dans la chapelle pour la première fois. Il vient. Alors, il n'est pas très à l'aise, parce qu'évidemment, il n'est pas très habitué. Peut-être qu'il n'a pas entendu la messe traditionnelle depuis très longtemps. Et puis, si c'est une dame, peut-être qu'elle a rien sous la tête. Peut-être qu'elle est même en pantalon. Elle vient pour la première fois. Combien de fois j'ai vu ça? Des fidèles qui sont là depuis 20, 30 ans. Qui, sitôt la messe terminée, au lieu d'aller accueillir ces nouvelles personnes qui viennent pour la première fois, se précipitent sur eux. Attention, la prochaine fois que vous venez, attention, pas question de rentrer dans la chapelle comme ça, hein. Il faut une mantille sur la tête, pas question d'être en pantalon. Et puis, venez avec votre miselle pour avoir reçu la messe. Puis, habillez-vous un peu correctement. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils font demi-tour. Et ils s'en vont, ils viendront peut-être jamais. Et le jour de votre jugement, le bon Dieu vous posera des questions. Je t'avais envoyé deux âmes tel jour, qui attendaient la grâce. Elles étaient toutes mûres pour recevoir cette grâce. Et à cause de ta froideur, à cause de ta dureté, ta raideur, ils sont partis. Combien de fois j'ai vu des âmes comme ça partir, plus jamais revenues. plus jamais revus. Qu'est-ce qu'il faut faire avec des âmes comme ça? Vous sortez, vous allez droit vers eux. Bonjour monsieur, bonjour madame, soyez bienvenus dans notre chapelle. C'est la première fois que vous venez? Ben oui, on n'est pas très au courant. Mais vous êtes les bienvenus ici, je vais vous présenter à monsieur le curé, monsieur l'abbé. Oui, mais nous, on ne sait pas très bien. Mais c'est normal, vous êtes tous un peu surpris, les gens qui viennent ici pour la première fois. Vous savez, ils sont tous un peu perdus parce qu'ils ne connaissent pas la messe traditionnelle. Ici, c'est la messe comme avant. Cette messe, elle a 2000 ans d'âge. Ne vous inquiétez pas, on va vous donner un missel, on va vous expliquer. Et puis, je vais vous expliquer, mettez-vous la prochaine fois à côté de moi, si vous voulez, je vous expliquerai comment suivre la messe, on va vous procurer un missel. Oui, mais je vois toutes les dames avec quelque chose sur la tête et ma femme, elle n'a rien. Mais vous inquiétez pas, parce que vous venez la première fois, c'est pas au courant. Oui, c'est vrai, dans l'Église catholique, c'est la tradition. C'est la tradition. Les femmes mettent un voile sur la tête. C'est le premier successeur de Saint-Pierre, Saint-Lin, le premier pape après Saint-Pierre, qui a institué ça comme règle. C'est une marque de respect, une marque de soumission aussi à l'autorité, une marque de respect. Et puis, si vous avez un petit peu de courage, dans certains cas, vous pourriez peut-être leur dire, écoutez, j'habite tout proche d'ici, venez en prendre un café à la maison, qu'on fasse un peu connaissance. En agissant ainsi, mais si, il faut le faire avec prudence. En agissant ainsi, vous pouvez ouvrir ces âmes à la grâce. J'ai connu des gens comme ça, qui étaient capables, par charité, d'amener des tas d'autres personnes. Je connais une fois une personne que je ne nommerai pas, qui est venue à une retraite que je prêchais, il m'avait amené 7 hommes jeunes, qui avaient entre 25 et 35 ans, qui étaient tous des païens. Ils étaient tous amenés faire la retraite, c'est même pas faire un signe de croix. C'est même pas la chose de Saint-Marie, quand je vaguement qu'il y avait un Dieu, puis ça s'arrêtait là, peu de choses près. Et bien, ils ont fait une bonne retraite. Ils ont fait une bonne retraite. Certains se sont convertis, peut-être que d'autres n'ont pas persévéré, je ne sais pas. Mais ils sont venus pourquoi? Parce que quelqu'un a été l'instrument. Quelqu'un a été l'ouvrier dans la moisson qui est venu séparer le grain de l'ivraie. Donc attention à cette raideur, à cette dureté dont les pères de l'Église parlent. Par l'innocence et la sainteté de votre vie, en bas de la page 34, par l'innocence et la sainteté de votre vie, par le pouvoir de ma grâce travaillant en vous, vous pourrez changer le loup en agneau. C'est-à-dire convertir les hommes des erreurs dans lesquelles ils vivent. On attrape les mouches avec du miel, pas avec du vinaigre. Ça, je l'ai vu, on peut dire tout ce qu'on veut sur Monseigneur Levet, moi je l'ai bien connu. Monseigneur avait cette extraordinaire capacité de se mettre au niveau des gens. Et j'ai vu Monseigneur Lefebvre parler à des gens d'une extraordinaire simplicité au Ritland dans le sud du Mexique. Il parlait des gens qui parlaient même pas espagnol. Il parlait le chinanteco. Et Monseigneur Lefebvre venait avec sa belle soutane, avec sa croix pectorale, son anneau. Et il y avait de la boue partout, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Et ces gens, tout heureux de voir un évêque qui était habillé en évêque, ils venaient, qu'est-ce qu'ils voulaient? Se faire bénir par l'évêque. Se faire bénir, embrasser l'anneau de l'évêque. Et j'ai vu Monseigneur Lefebvre, qui était pourtant fatigué par la chaleur extrême de ce sud du Mexique, dans l'état de Oaxaca, ou de Veracruz, qui était enveloppé de mouches à cause de la chaleur, de la sueur. Monseigneur, affable, gentil, patient, bénissant les enfants, toutes ces mamans qui apportaient leurs petits dans leurs bras, des petits bébés, parce qu'il y a beaucoup d'enfants là-bas, elles venaient présenter l'enfant. Et puis, Monseigneur le fait bénissait l'enfant avec un signe de croix sur le front. Et puis la maman se mettait à genoux tant bien que mal dans la boue pour embrasser l'anneau de Monseigneur Lefebvre. J'ai vu Monseigneur Lefebvre relever ses mamans, toutes simples. Cette extraordinaire simplicité de Monseigneur. C'est ça qui ouvre les âmes. Bien sûr que ça valait une prédication. Ça valait une prédication. Ah, mes bien chers frères, voyons si nous ne sommes pas un peu responsables par notre froideur, notre raideur, notre dureté, de l'abandon de la foi pour certaines âmes. Et soyons des instruments de la grâce. Il faut que le bon Dieu puisse passer par nous. Je répète ces dernières phrases en bas de la page 34. Par l'innocence et la sainteté de votre vie, par le pouvoir de ma grâce travaillant en vous, vous pourrez changer le loup en agneau, c'est-à-dire convertir des erreurs dans lesquelles ils vivent. Soyez avec les gens tels que vous voudriez que ces gens soient avec vous. Il suffit parfois d'un sourire. Pourquoi ce masque épouvantable qu'on nous impose maintenant partout est une catastrophe sous plan de la charité. On est muselé littéralement, mais on est aussi, par ce masque, on est coupé de la vertu de charité. Au moins sur plan naturel, c'est épouvantable. On ne voit plus les sourires. Combien de fois j'ai vu ça, un simple sourire. On sent qu'une personne, on est dans la rue en soutane, en train de marcher sur le trottoir, puis on voit des gens qui arrivent, et ça se devine. On voit en mouvement. Ils veulent nous parler. Ils ont vu la soutane, ils veulent nous parler. C'est là où il faut répondre par un grand sourire. Et puis, parfois il suffit de dire, bonjour, que le bon Dieu vous bénisse. Et puis s'il y a un enfant, on bénit l'enfant. Ah, mon père, merci. Mais mon père, est-ce qu'on peut vous poser une question, s'il vous plaît? Voilà, et puis ça commence par des choses tout ça. Voilà, mon père, ma grand-mère, elle m'a donné un chapelet avant de mourir. Est-ce que vous pourriez le bénir? Oui. Et puis, il y a une médaille là. Vous pouvez la bénir aussi, mais bien sûr. Et puis, vous savez, nous, on ne sait pas très bien comment dire le chapelet. Vous pouvez nous expliquer un petit... Et puis, on explique. Éventuellement, on donne le numéro de téléphone quand il demande. Même s'il ne le demande pas, n'hésitez pas à me rappeler. Et ça peut être le début de conversion. C'est comme ça que travaille notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. À qui va notre Seigneur Jésus-Christ? Il va aux pauvres, il va aux malades. Ce n'est pas bien pourtant que j'ai été envoyé, dit-il, sous malade. Il va aux enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. Car si vous ne devenez pas comme un de ces petits, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Passons à la page 35, sur le polycopier, dans quelques minutes qui restent. Versets 4 à 11 du chapitre 10 de Saint-Luc. Ne portez ni bourse, ni sac, ni chaussures. Ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il se trouve un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans la même maison, mangeant et buvant ce qu'il y aura chez eux, car l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur le royaume des dieux. De Dieu s'est approché de vous. Et dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, sortez sur les places publiques et dites, la poussière même de cette ville, de votre ville qui s'est attachée à nous, nous la secouons contre vous. Sachez cependant ceci, le royaume de Dieu est proche. Et ici, le bon Dieu nous indique bien que ces prédicateurs auront toutes les choses matérielles dont ils ont besoin. Le berger pourvoira la bourse et l'argent s'ils sont nécessaires, de peur que l'esprit des prédicateurs ne soit préoccupé par des choses temporelles, oubliant les choses éternelles. Donnez-vous complètement à la prédication de mon évangile. Mais on voit à quel point le bon Dieu s'occupe de ses prêtres. C'est extraordinaire. Je sais que beaucoup de mes confrères, notamment dans la fraternité Saint-Bélis, se rendent bien compte que la fraternité c'est fini, qu'il n'y a plus rien. Que Mgr Felet a trahi Mgr Lefebvre, qui sont complètement infidèles à ce que voulait Mgr Lefebvre, et que cette idée de s'unir à Bergoglio est un suicide spirituel, ils le savent. Et puis quand on les voit, parfois j'en vois de temps en temps, et ils me disent, Monsieur l'abbé, n'allez pas raconter que je vous ai parlé, et je ne veux pas avoir des ennuis avec mes supérieurs, hein. Eh bien je respecte ça, bien sûr. Et puis on leur dit, mais... Je repose la question, mais qu'est-ce qui se passe là, frère? Ah, monsieur l'abbé, la fraternité, c'est fini, plus rien. Et pourquoi vous restez là-dedans alors? Ah, monsieur l'abbé, vous comprenez, si je m'en vais, mais j'aurai plus d'assurance médicale, j'aurai plus rien, je pourrai plus vivre. Et je leur dis, mais le monde s'occupe de ses prêtres, il s'occupe de ses missionnaires. Je peux vous donner l'exemple, mon propre exemple. Je dis pas que je vis sur le marbre et l'orfin, bien sûr que non. Mon seul luxe, c'est une bonne voiture parce que je fais 60 000 km par an, que j'ai besoin d'une bonne voiture qui soit en même temps un bureau. Donc j'ai besoin de pouvoir avoir Avoir, je vous l'ai déjà dit, pouvoir mettre une clé USB sur le tableau de bord et avoir le Bluetooth. Bon, j'ai besoin d'une voiture qui fonctionne et qui me permette de passer le col à 2400 mètres en dehors, ou au moins le tunnel à 2000 mètres, même quand il y a de la neige. Bon, j'ai besoin d'une bonne voiture et des bons pneus. Ça coûte cher. Eh bien, le bon Dieu s'en occupe. S'il veut que j'aille missionner dans ces terres hospitalières d'Andorre, eh bien, il me donnera les moyens pour y aller. Et puis, quand les gens me disent parfois, monsieur l'abbé, on aimerait bien que vous veniez, mais en ce moment, je ne peux vraiment rien vous donner, je ne peux même pas vous rembourser vos frais de gasoil. Eh bien, le bon Dieu pourvoira, pour être sûr que cette semaine, je reçois un chèque de 50 euros qui va me payer le gasoil. Pour être sûr que le jour où j'ai une grosse dépense qui n'était peut-être pas prévue, eh bien, ce jour-là, je vais recevoir un chèque, parfois une enveloppe avec un peu d'argent dedans. Ça couvre les frais. L'accomplissement de ce devoir sera facile au pasteur, qui ne place pas son âme sous le joug écrasant des convoitises de la terre. Le Christ ne veut pas que ses disciples se laissent distraire du ministère qui leur est confié, même pour saluer ce qu'ils rencontrent. Et cet argent, donc, qui est renfermé dans la bourse, c'est pour ça que Dieu dit, ne partez pas de bourse, ni sac, ni chaussures. Cet argent renfermé dans une bourse, c'est le symbole de la sagesse qu'on cache aux yeux du monde. Celui donc qui possède en lui-même la parole de la sagesse et qui néglige de la communiquer au prochain tient son argent comme lié dans sa bourse. Le sac représente le fardeau des affaires du siècle, les chaussures, les œuvres mortes. C'est pour cela que Dieu dit, ne portez ni bourse, ni sac, ni chaussures. Ne vous encombrez pas des choses de ce monde pour être disponible pour les choses spirituelles. Voilà, je vais arrêter là parce que ça fait déjà plus d'une heure que je parle. Donc nous continuerons la semaine prochaine. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.